Donc nous sommes toujours à la Japan Expo et cette fois c'est en compagnie de Grégoire Hello. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des éditions Kurokawa? Comment est-ce que ça a commencé?
Alors ça a commencé en 2004. À l'époque c'est le président directeur général de Univers Poche qui est un des plus gros éditeurs français, chez qui il y a Pocket 10-18, Fleuve Noir. C'est là-dedans que tu vas trouver le Da Vinci Code, Hunger Games, Le Diable s'habille en Prada, voilà, le Seigneur des Anneaux, les romans de Star Wars. C'est un très très gros éditeur et qui au début des années 2000 voyait que le secteur populaire des mangas commençait vraiment à exploser et ils se sont dit on s'appelle Univers Poche et le manga bah, c'est un format poche et on n'en fait pas, donc pourquoi? Et donc ils ont cherché à recruter quelqu'un pour lancer un label manga et ça a été moi. Et du coup, on a monté Kurokawa dans l'année qui suivit et on a lancé les premiers mangas en septembre 2005.
Avec quel titre comme début?
Alors on a démarré avec Full Metal Alchemist, Satan 666, Azumanga Daio, Les Flics de la Mort, Kimi wa Pet et j'en oublie un, Megaman.
Et quel est le public visé?
Alors nous, le but c'est vraiment de faire du manga très grand public. D'être vraiment... On est un éditeur populaire en roman, donc le but c'est d'être un éditeur populaire en manga aussi, tout simplement.
Quelles sont les séries qui marchent bien, qui sont les plus connues chez Kurokawa?
Alors nos plus grosses séries, ça va être One Punch Man, qui est le plus gros lancement de toute l'histoire d'un manga en France, qui aujourd'hui a fait plus d'un million d'exemplaires en moins d'un an et demi d'exploitation, ce qui est vraiment absolument extraordinaire. On a Pokémon, qui marche très très bien aussi, forcément la licence est toujours aussi puissante, et puis c'était une volonté de notre part d'aller vers les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui cartonne très très bien chez nous aussi? On va avoir Red Ice Sword, Akame ga Kill, qui marche très très bien. Mob Psycho, qui a eu un très bon démarrage par l'auteur de One Punch Man, forcément. On a eu Bloodlad, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, mais qui continue de bien marcher en fond. Et après, on va avoir aussi les classiques, les Chevaliers du Zodiac, que ce soit Sentia Show ou Lost Canvas. Voilà, on va avoir aussi, qui marche bien, on va avoir Vinland Saga, qui est très très bon dans son genre. Et pour les filles, c'est les classiques shoujo, donc on va avoir Chocolat et Vanilla, qui marche encore très bien chez les petites filles. On a aussi Nozoki Anna, qui est un thriller érotique et qui marche plutôt bien, notamment grâce au public féminin. Il y a beaucoup de filles qui lisent le bouquin. On est très contents d'ailleurs. C'est à peu près le gros du catalogue. Je dirais que dans les nouveautés qu'on a sorties, il y a aussi quelques petits succès.
Et qu'est-ce que vous recherchez de spécial dans les mangas que vous éditez? Qu'est-ce qui vous donne envie de publier un manga en particulier?
En général, je fonctionne au coup de cœur éditorial, mais en même temps, comme je suis un éditeur populaire, je vais aussi aller vers les tendances. C'est-à-dire, par exemple, si on voit que le young adult explose en roman, on va se poser la question de se dire est-ce que le public voudra du young adult en manga? Et on va aller voir si on a des œuvres de ce genre-là, ou s'il y a une mode de la dystopie, ou au contraire, regarder aussi les modes au Japon. Par exemple, on voit que la mode du isekai arrive au Japon, on va lancer celui qui est à l'origine de ce mouvement, qui est moi quand je me réincarne en slime, qui est d'ailleurs une nouveauté de l'année dernière et qui est en train de complètement exploser. On est en rupture de stock là aujourd'hui sur le tome 1 et le tome 4, qui sont le premier et le dernier volume paru. Et on sent qu'il y a un bouche à oreille et que les gens commencent vraiment à se l'approprier en fait.
Est-ce que vous avez déjà sorti des mangas en pensant que ça allait pas trop marcher et finalement ça a explosé?
Ça va plutôt dans l'autre sens en fait, mais c'est vrai que ça arrive parfois qu'on se dise ce manga là ça va très très bien marcher et c'est un échec total. Ça nous est arrivé avec Yotsuba par exemple, qui est un des meilleurs mangas du monde, et c'est vraiment extrêmement frustrant de bosser sur Yotsuba parce que c'est un manga, tout le monde dit que c'est génial mais personne l'achète en fait, et c'est extrêmement injuste. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler des nouveautés à apparaître qui sont les exclusivités peut-être Japan Expo et celles qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année et peut-être l'année prochaine?
Bien sûr, alors sur le stand aujourd'hui on a mis en avant un manga qui s'appelle Renjo Desperado, qui est un western japonais avec une samouraï qui s'appelle Monko qui traverse le désert d'est en ouest à la recherche du mari parfait. Et ça a l'air complètement débile comme ça, et c'est hyper casse-gueule parce qu'en plus le dessin est un peu sexy, très travaillé, et en fait c'est une super aventure qui est pas du tout qui tombe dans aucun travers, aucun cliché. C'est un manga que les filles adorent justement parce qu'il prend pas les lectrices pour des idiotes, et c'est un beau manga d'aventure qui est vraiment très très sympa. Pour Japan Expo, on a lancé Les Héros de la Galaxie, puisque cette année c'est spécial Space Opera. Donc on a lancé le tome 1 des Héros de la Galaxie, qui est en fait une réinterprétation en manga d'un très grand classique de la littérature japonaise, du même nom, hein, les Héros de la Galaxie. Donc c'est une grande saga qui est sortie dans les années 80. Et là aujourd'hui, on a Ryu Fujisaki au dessin, qui est un spécialiste de l'adaptation en manga des classiques de la littérature. C'est lui qui avait fait Oshi Engi, l'investiture des dieux chez Glénat par exemple. Voilà, il est très spécialisé dans l'adaptation des romans asiatiques en manga. Et donc voilà, c'est un chef-d'œuvre du space opéra et j'invite tous vos auditeurs à aller le découvrir. Et en exclu, on présente notre prochaine grosse série qui sortira en septembre. Je ne sais pas si vous avez essayé la petite animation avec la réalité augmentée. Voilà, ça s'appelle Goblin Slayer. C'est le nouveau gros titre d'Heroic Fantasy qui va tout cartonner à la fin de l'année. Donc on sort en septembre le manga et le roman. Et en octobre, il y a l'animé qui débarque à la télé. Et bah, c'est tout simplement un bouquin d'Heroic Fantasy mélanchoniste. Hein. C'est-à-dire que ça s'appelle Goblin Slayer parce que le héros, c'est un tueur de gobelins. Donc c'est un très grand aventurier, mais aller sauver les princesses, tuer les dragons, combattre les archimages, les ghouls et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, il s'intéresse uniquement aux gobelins, parce que les gobelins, ça pose pas de problème à des pays entiers, mais c'est chiant pour le fermier, parce qu'ils se font piquer leurs vaches, ils se font violer leurs filles, et les gobelins, bah, c'est de la vermine. Et du coup, on suit les aventures de ce gars-là, qui est un peu le dératiseur de l'Heroic Fantasy, et qui va méthodiquement voilà, exploser les gobelins. Donc c'est de l'heroic fantasy réaliste, entre guillemets, très proche du peuple. C'est un point de vue totalement inédit sur l'heroic fantasy. Et alors par contre, je préviens tout de suite, je ne sais pas quelle est votre cible pour votre émission, mais voilà, c'est très très violent. Il y a beaucoup de sang, voilà, tu vois, sur l'échelle de Berserk, c'est très très haut placé. Donc voilà, c'est de l'heroic fantasy, c'est de la dark fantasy très très méchante, mais avec un point de vue très original. Donc j'encourage tout le monde à le découvrir, et de toute façon je pense qu'à la rentrée ça va être un raz-de-marée entre l'animé, le manga, le roman, il va y avoir un jeu de plateau, enfin c'est la totale.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, j'espère que tout le monde passe une excellente Japan Expo. On voit que le public est de plus en plus familial. Parce que d'habitude, tu vois, les mangas Pokémon, on cartonne, on en vend partout en France. Mais à Japan Expo, pas trop. Or, cette année, on est en rupture sur pas mal de tomes. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de familles, en fait, qui viennent avec leurs enfants. Et qui, du coup, bah, ils s'achètent des trucs, ils s'achètent des figurines, des machins. Et il faut faire plaisir aux petits. Donc, du coup, hop, on va aller choper le manga Pokémon, quoi. Donc, c'est marrant. Japan Expo devient une sortie familiale. Et ça fait vachement plaisir.
Du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu des 3 jours là, qui sont déjà passés, un peu comment ça s'est passé sur le stand ?
Alors, ça s'est très très bien passé, c'était assez surprenant parce qu'on avait peur de la Coupe du Monde. Et en fait, même si effectivement hier après-midi à 16h pour le match de l'équipe de France, il y a beaucoup de gens qui sont partis, d'un autre côté c'est génial parce que tous les gens qui restaient, c'était des gens qui ne s'intéressaient absolument pas au foot. C'est-à-dire qu'on a même pas su que la France avait gagné et on était vraiment dans notre bulle à nous et c'était vraiment assez marrant comme sensation. Mais d'une manière générale, depuis que je suis très content parce qu'ils ont ouvert un hall supplémentaire, pour ranger les arts martiaux, les voitures japonaises et les Lego. Et du coup, on respire vachement mieux. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu l'année dernière, mais enfin, il y a autant de monde que l'an dernier, mais les allées sont vachement plus espacées, on respire mieux. Enfin, tu vois, toi et moi, tu es venu me chercher sur mon stand, on a mis moins de 5 minutes à traverser l'allée centrale, ce qui est impossible normalement un dimanche après-midi. Voilà.
Bon, ben, merci beaucoup, Grégoire.
Merci à vous de m'avoir invité.